architecture mentale.
Cet épisode d'Architecture mentale vous est présenté par Kombu. Si vous voulez profiter de tous les bénéfices du kombucha sans avoir l'impression de boire du jus de champignon, essayez Kombu. Kombu, c'est la boisson vivante la plus accessible et la moins chère sur le marché avec 4 saveurs hyper faciles à boire. C'est aussi une façon d'avoir un petit kick d'énergie sans avoir à ingérer 3 tonnes de sucre. Visitez kombudrinks.com pour commander en ligne et entrer le code promo architecture mentale en un mot au moment de passer la commande pour bénéficier d'un rabais de 10%. C'est au kombudrinks.com et le code promo, c'est architecture mentale en un mot. OK gang, bon podcast.
Quelqu'un d'expérience comme toi, c'est quoi concrètement ces erreurs-là qui sont à éviter?
Je te dirais, la première erreur, c'est de vouloir plaire à tout le monde.
Wow, OK.
OK? Quelque chose qui a du style, qui est un style fort, va nécessairement faire triper du monde, puis il y a du monde qui va haïr ça. Puis quand tu essaies de tout mettre ensemble pour faire quelque chose qui va plaire à tout le monde, ben, t'auras pas de style. Ça va être n'importe quoi. Mm-hmm. J'ai une phrase en branding que je dis souvent. C'est quoi la définition d'un chameau? Un chameau, c'est un cheval pur sang qui a été désigné par un comité. Tu sais, quand t'essaies de tout raboudiner des idées des autres, ça donne pas un cheval pur sang. C'est pur sang, ça donne un chameau.
Oh my God! Elle est excellente! Vous écoutez Architecture mentale parce que vous voulez apprendre à vous connaître et vous maîtriser pour arriver à vous construire une vie à la hauteur de vos rêves. Je m'appelle Sylvain de Carufel et aujourd'hui, mon invité est entrepreneur, designer graphique et directeur artistique. Il a réussi, il y a de cela 32 ans, à transformer sa passion pour le dessin en une entreprise prospère. C'est un visionnaire et un leader positif qui dirige son équipe avec humilité et respect. Son entreprise a conçu et revampé des images de marques de grandes compagnies comme L'Oréal, Oasis, Marcel, Fairly, Del Monte, Lise Wattier, Neutrogena, Biomed Pharma et Olimel, pour ne nommer que celle-ci. C'est aussi un guitariste hors pair et un être humain d'une grande profondeur. Je vous présente le fondateur et PDG de Studio D, Louis Desilets. Bienvenue à Architecture mentale.
Merci Sylvain, c'est un plaisir d'être là.
Hey, c'est un immense plaisir de te recevoir. Je t'avoue que quand je te l'ai demandé, j'étais comme « Il va-tu vouloir? » Tu sais, ça a été comme naturel, là, tu sais.
Pourquoi pas?
C'est super cool. Écoute, t'as un parcours hallucinant. T'as de l'expérience, tu sais, ça sent bon sens. Je veux dire, t'as 32 ans d'expérience d'entreprise. Puis j'ai goût de commencer en te posant une question parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui écoutent le podcast, parce que j'ai beaucoup d'artistes dans mon entourage. Puis t'es un artiste à l'origine, je veux dire, t'es un artiste visuel puis un musicien. Est-ce que, avant de te lancer en affaires, est-ce que t'avais un certain préjugé envers l'entrepreneuriat? Est-ce que t'avais un blocage face à ça? Parce que c'est le cas de beaucoup d'artistes de voir l'entrepreneuriat d'une façon un peu négative, tu sais. Fait que y a-tu un blocage que t'es obligé de transcender pour arriver à ça?
Ouais, bonne question. Pas un blocage, non, mais en fait, moi, c'est arrivé un petit peu par la porte d'en arrière, dans le sens que quand j'ai commencé à travailler dans mon domaine, j'ai un tempérament de leader à la base. Moi, je suis dans ma personnalité, tu sais, je suis comme ça. Tu sais, quand à la petite école, mettons, tu sais, j'étais genre président de ma classe, des trucs de même. Fait que j'ai toujours aimé ça un peu. Être leader, là, puis bon, organiser mes affaires, tu sais. Fait que j'ai un peu cette nature-là. Maintenant, quand j'ai commencé à travailler, à un moment donné, je travaillais dans une boîte, puis là, à cause que j'avais des aptitudes techniques qui étaient bonnes, je me faisais pas confier des mandats de création dans mes jobs. Tu comprends?
OK.
Parce que là, ils voyaient que... Puis, regarde, j'ai pas le même âge que toi, là. Quand j'ai commencé à travailler, on travaillait à mi-temps, tu sais. On n'avait pas d'ordi, là. Fait qu'il y avait des habiletés techniques qui allaient avec la job, tu sais. Il y avait les illustrateurs, ils travaillaient au airbrush. Puis moi, j'étais capable de couper des frisquettes, des trucs difficiles. Fait que mes boss, ils me donnaient ça, tu sais. Parce que j'avais une dextérité fine, tu sais. Les affaires difficiles à faire, tu sais, il me donnait tout le temps ça. Mais à un moment donné, j'ai changé de job. Je suis allé dans une agence où j'étais supposé faire du design, j'étais supposé faire de la création. Puis la boss du studio a comme donné sa démission 2 semaines après que je suis arrivé là. Écoute, j'avais comme 24 ans.
Là. OK.
25 ans. Puis là, le boss est venu me voir et dit « On aimerait ça que tu deviennes le directeur du studio. » J'étais là « What? » Parce que probablement qu'il voyait en moi que j'avais ce qu'il fallait pour faire ça, je ne le sais pas. Moi, je dis « Ah ouais, tu sais. » Fait que là, je me suis ramassé boss de ce place-là avec des... C'est pas une grosse équipe, là, mais j'avais du monde plus vieux que moi, hein, tu sais. Fait que j'ai comme appris à faire ça, tu sais.
Fait que t'as toujours eu un peu le sens de l'organisation puis des priorités, puis de... J'imagine ouais, si t'as confié ça, c'est parce que t'avais un peu ça en toi, là, tu sais.
Probablement qu'ils voyaient ça, tu sais. Puis là, moi, quand j'étais là, je voyais qu'il y avait des designers qui louaient des bureaux en haut de notre agence, tu sais.
Okay.
Puis là, ils travaillaient tout seuls, puis il y avait le client, ils faisaient leurs affaires, j'étais là, je dis, ah, ça me tente, ça. D'être à mon compte, d'être tout seul dans mes affaires, tout ça. Je voulais pas devenir nécessairement un gars qui avait des employés puis tout. Mais ça me tentait. Fait que là, ce que j'ai fait le midi, je partais puis j'ai dit, OK, je vais essayer ça, tu sais. Fait que là, je me suis promené le midi, j'étais au centre-ville puis je me suis trouvé un local. Écoute, c'était super le fun, le setup, parce que c'était des chums. C'était tout du monde de la pub, tu sais, des illustrateurs, des designers, tout ça, qui louaient comme un espace, puis il y avait comme un bureau chacun. Puis là, moi, je disais, je vais aller voir là, tu sais. Fait que là, je rencontre un de mes chums, Bernard, qui est un super illustrateur, il me dit, ouais, dis-moi, je vais quitter le bureau, il y a une place. Je dis, regarde, moi, je cherche ça, là. Fait que là, je vais voir les gars. Je connaissais un des gars assez bien, Alain Mascotte, qui est devenu un très grand chum à moi. Là. Puis là, il me dit, ben là, OK, tu veux louer, mais t'as-tu des clients? T'as-tu des contrats? Je dis, non, j'en ai zéro. Zéro. Tu es capable de payer le loyer, quelque chose? Ben, je dis, je vais essayer. Ça me tente d'essayer. Là.
Fait qu'il dit, OK. T'as conclu ton bail avant d'avoir un seul client, là?
Exact.
Okay. Je sais pas si tu as vu l'épisode précédent où je parle de se peinturer dans un coin, là, c'est pas mal ça que tu as fait.
Ouais, pas mal, ouais. On n'a pas le choix, là. Mais c'est ça. Fait que je suis devenu entrepreneur comme ça, tu comprends?
Okay. Okay.
Puis là, mais mon but, moi, c'était de travailler tout seul, faire des petites affaires, puis tu comprends? Fait que là, mais après ça, comment tu fais, là? En 89, c'était avant Internet, il n'y a pas de courriel, il n'y a rien, là.
Mm-hmm.
Moi, ce que j'avais, c'est une table à dessin, des crayons feutres, un exacto, puis un téléphone.
Wow!
Puis du cœur au ventre, parce qu'il faut que tu... T'sais. Fait que là, j'ai fait des cold calls. Je faisais des cold calls à journée longue. J'en faisais 40 par jour. J'écrivais ça dans un...
Comment t'as vécu ça? C'était ma prochaine question, parce que quand tu te pars en affaires... Tu deviens par défaut un vendeur. Tu sais. Je veux dire, à moins que tu partes en business avec quelqu'un qui a des aptitudes de vente, mais si tu pars en solopreneur, tu pars avec un mandat de vendre en partant. Est-ce que tu avais ça en toi? Est-ce que c'était quelque chose qui était naturel pour toi de vendre ou bien tu as fallu que tu développes des skills ou un peu des deux?
Un peu des deux, mais j'avais des aptitudes de vendre parce que à un moment donné, quand j'ai commencé au cégep, ben, tu sais, dans mon parcours, j'ai commencé à jouer dans un bar assez jeune, là, j'avais comme 16 ans. Là je giguais en masse, puis là, j'étudiais en même temps, mais j'ai jamais arrêté d'étudier. Fait qu'à un moment donné, ça avait plus de sens, là, je jouais du jeudi au dimanche, à trois semaines, puis des fois à Québec, puis tout. Puis j'étudiais en design. Des fois, je faisais des devoirs entre les sept, pour te donner une idée, tu sais. Les chums, ils allaient creuser des filles, moi, je faisais des devoirs, tu sais.
Oh my God!
Ça n'a pas de bon sens. Mais bon, en même temps... De quoi je parlais? Donc? Mais dans le sens que, à un moment donné, j'ai lâché les bandes parce que j'ai dit, OK, là, il faut que je finisse mon cours de design. Là, je voulais faire ça. Je suis arrivé à Carrefour un peu. Là, fait, je décide, je fais-tu de la musique ou je suis bon. Fait que là, j'ai fait ça. Puis là, ce qui est arrivé, je me suis trouvé une job d'étudiant la fin de semaine. Je travaillais au Eaton à Belleuil dans le département d'appareils photo puis tout de même. T'sais. Puis la photo, je connais ça parce que j'en ai vu. J'ai étudié ça dans mon cours de design. T'sais.
OK.
Puis là, ben j'étais vendeur, tu sais.
OK. Puis, fait que t'as toujours été un peu là-dedans.
Ben ouais. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçu que j'étais pas payé là-dedans. Ma boss, elle m'aimait bien, là. Parce que des fois, le monde arrivait, parce que j'avais un petit département, je vendais des disques, puis des appareils photo, puis des livres, puis j'avais une couple d'affaires. Là, des fois, le monde arrivait pour, genre, acheter un livre, puis repartait avec un kit de photos de 1 200$, tu sais, parce que je lui vendais ça, tu sais. On dirait que j'avais le tour de les... Tu sais, fait que... C'est tellement fun, ça! C'est ça. Je me suis aperçu que j'avais quand même des aptitudes de vente à ce moment-là.
OK.
Et après ça, Après ça, le côté vente, ça, il ne faut pas minimiser ça là, quand on est en affaires, dans n'importe quoi. Il faut soit se vendre nous-mêmes ou vendre notre produit, nos services. Ça, c'est je te dirais, c'est assez primordial. Ou si tu n'en as pas, il faut que tu trouves quelqu'un qui le fait pour toi. Parce que,
ouais, c'est ça, exact. Si tu n'as pas des aptitudes de vente, faut que, autrement dit, s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de business. S'il n'y a pas. Tu sais, je veux dire, c'est le cash flow vient de quelque part. Si tu veux que ça grossisse, si tu veux qu'il se passe de quoi. Puis ça, c'est une autre affaire que je m'efforce de renforcer à chaque podcast. C'est que, vu qu'il y a beaucoup d'artistes qui l'écoutent, tu sais, je veux dire, si l'objectif, c'est d'arriver à vivre de ton art, ben vivre de ton art égale avoir une business égale faire de la vente, tu sais. Fait qu'à quelque part, t'as pas le choix d'être vendeur, tu sais. Même si tu dis, je vais m'engager un booker, ben faut que tu réussisses à vendre ta salade au booker, tu sais. Fait qu'à quelque part, il y a plein de ventes qui se passent à plein de niveaux, tu sais. Autre question, quand t'as parti ça, puis probablement que c'est encore le cas, il y a des portions de temps ou des rushs où ce que, regarde, tu fais de l'overtime, tu travailles 28 heures par jour, tu dors probablement pas beaucoup. C'est quoi au début puis aujourd'hui qui te drive à faire ça? Tu sais, c'est-tu comme la satisfaction du client ou bien, comme tu dis au début, t'avais un idéal de lifestyle. Autrement dit, quand t'as vu les gars qui travaillaient à haut de toi, t'as dit, moi, je veux vivre de cette façon-là. Fait que tu travaillais à achever un lifestyle. Aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que t'as encore une vision qui te drive ou bien t'es dans le maintien de ton entreprise? C'est quoi qui fait en sorte que t'es encore là puis que tu te lèves le matin avec la drive que t'as parce que t'en as toute une?
Je te dirais, ce qui m'habite et qui me drive, c'est vraiment la satisfaction des clients. Moi, je suis une espèce de jongleur. Je suis comme le lien entre les employés et les clients. Puis je m'arrange pour que tout le monde soit content.
Okay.
Puis ça, j'aime ça. Moi, je suis vraiment axé sur les gens. J'aime le monde, moi. Je suis un gars de people. Et c'est ce que je trouve le plus dur en pandémie, c'est de pas voir le monde. Mais moi, c'est ça. J'aime que les. Ce qui me drive, là, c'est quand on fait une bonne job, l'équipe a bien travaillé, puis là, le client t'envoie un courriel, on est satisfait, wow, bravo. Et là, ma récompense.
Okay.
Même si c'est pas moi qui a fait la job, c'est mes employés. Ça, c'est pas grave.
Oui, parce que ultimement, c'était ma prochaine question, parce que t'as commencé ça en te disant « Hey, wow, je peux gagner ma vie avec mon art », puis en bout de ligne, probablement que tu le fais plus bien, dans le sens que je sais pas à quel point t'es hands-on sur le design graphique, mais il reste que t'es devenu probablement, t'es le gestionnaire en arrière de ça, t'es le vendeur en arrière de ça, puis l'art, la forme d'art elle-même a pris un peu le bord. Est-ce que t'as l'impression d'avoir sacrifié ça, ou bien si c'est quelque chose de, comment je pourrais dire, si t'as remplacé la passion du dessin par la passion de l'entrepreneuriat? Comment tu vois ça?
Une autre bonne question.
C'est de l'architecture mentale.
Je dirais qu'il faut faire des choix, puis il faut les assumer. Okay? Je te donne un exemple. À un moment donné, moi, mon objectif quand j'ai commencé, c'est de travailler tout seul, faire mes petites affaires. Puis là, comme je te dis, j'ai fait des cold calls, je suivais ça. À un moment donné, ça s'est mis, tu sais. Quand tu mets ça en ligne à l'eau, il y en a deux, trois qui meurent de m'amener, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que là, m'amener, puis là, à m'amener, ça s'est mis à rouler comme solide. Là. La deuxième année, là, ça marchait bien fort. Là, j'ai pogné L'Oréal, j'ai pogné Ultramar.
Deuxième année, t'as pogné des gros clients de même, ça n'a pas de bon sens. T'as pitché ça, toi, ta deuxième année, mais let's go, on pitch à L'Oréal.
C'est par des contacts, beaucoup, tu sais.
OK.
C'est par des contacts, tu sais. Puis, je vais te faire une joke. À un moment donné, j'avais engagé un entrepreneur dans mon bureau pour arranger des murs, tu sais. Le gars, il était super fin, mais il m'en sortait des bonnes. Il me dit, moi, ma publicité, c'est le bouche à bouche. Là, j'ai dit, OK, moi, je suis pas sûr que je vais t'en faire, là. Mais ça, pour dire, c'est beaucoup le bouche à oreille.
Mm-hmm.
Dans le sens que... Moi, j'ai bâti un réseau social, un gros réseau social. Fait que des fois, c'est le chum de la blonde de mon chum qui m'a appelé. C'était été ça, là. J'avais mes chums dans l'agence où je travaillais. Sa blonde était chez L'Oréal, puis on se connaissait comme amis. Puis là, elle dit, ah, tiens, oui, il fait du packaging. Tiens, je vais l'appeler, je vais lui donner une job. Ça s'est passé comme ça, tu sais.
Okay.
Puis là, après ça, faut que tu livres, tu sais. Faut que tu livres la marchandise, tu sais.
Exact, exact. Fait que là, t'es seul designer dans la boîte à ce moment-là, là.
Oui. Okay. Puis là, ben, j'ai fait la job. Puis à un moment donné, les autres sont 7-8 chefs de marque. T'sais. Il y en a une qui fait Plénitude, puis l'autre Vichy, puis l'autre Biotherme. Puis là, l'autre m'appelle. Puis à un moment donné, j'en avais là, du L'Oréal. C'est malade. J'étais là tous les jours. Là. Mais là, je suis tout seul. Fait que là, tu vas rencontrer le client. Puis là, encore là, avant Internet, il n'y a pas de courriel, il n'y a rien. Je travaille tout à la main. Là. Fait que là, je faisais... j'allais voir les clients. Là, là. Après ça, je commençais à travailler des fois 2-3 heures l'après-midi jusqu'à 11 heures le soir, tu sais. Puis j'ai fait ça là, un sacré bout. Puis à un moment donné, j'avais des mandats. Là. J'étais comme, comment je vais faire avec les délégués? C'est impossible. J'y arrive, là, tu sais. Par la gestion du stress, puis il ne faut pas perdre ses moyens. Moi, le stress, ouais. Ça ne me fait pas perdre mes moyens. Fait que, c'est ça qui est arrivé. Puis, à un moment donné, ça a déboulé. J'ai fait, tu sais, j'ai eu des corps, j'en venais pas. Là. J'ai dit, OK, Outremont m'appelle. OK, on a une promotion pan-canadienne. OK. Puis là, c'était, j'avais, écoute, là, je me pointe là, tu sais, le gros bureau, tout. Mon compétiteur, c'était une agence qui était 40 dans le bureau, tu sais. C'était pâle. Fait que moi, j'en faisais une, puis moi, il faisait l'autre. Mais moi, j'avais mon bureau sur Sainte-Catherine. Fait qu'ils ne savaient pas que j'étais tout seul, eux autres, tu sais. En autant que je livre la marchandise, tu sais. Fait que je l'ai fait, tu sais.
OK, là, on touche un point intéressant. T'as-tu prétendu dans ton attitude? Est-ce que. Non, OK.
J'ai bien dit, on est une big agence. J'y disais, moi, je prenais un mandat parce que je savais que j'étais capable de le faire. Okay. J'ai toujours été honnête. Si tu me demandais, vous êtes combien? Je suis tout seul. Mais il ne me le demandait pas, tu sais. Fait que, okay. Si tu ne me le demandes pas, je n'ai pas besoin de le souligner parce que là, il aurait peut-être eu la chaîne. On va dire, donc, il va-tu réussir, tu sais. Ouais, sauf qu'il y avait des références encore. Il ne m'appelait pas pour rien, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, je faisais la job. Puis là, ouais, ça, je pense qu'à ce moment-là, j'avais 5 000 dans le compte de banque. Puis juste imprimer la job, ça coûtait comme 35 000, tu sais. Fait que là, moi, il fallait que je fronde ça. Puis, tu sais. Puis là, après ça, c'était genre, t'imprimes ça, tu t'occupes de shipper à Travail Canada, dans les stations de centre.
Ça n'a pas de sens. OK, fait là, OK, là, ça, c'est malade, ça. Il y a bien du monde qui vont s'empêcher de réaliser leurs rêves parce qu'ils ont peur qu'une situation comme ça leur arrive, OK?
Ouais.
C'est quoi ton attitude? Là, t'es là, t'as 35 000 à sortir de ta poche, t'as 5 000 dans ton compte en banque, t'as probablement t'as des trucs à shipper que t'as jamais fait ça de ta fucking vie. Là, c'est quoi? Tu vas-tu chercher de l'aide? Tu vas-tu... c'est quoi ton premier réflexe? C'est quoi le... Est-ce que... OK, je vais même plus fondamentalement que ça. Tu t'assois-tu avec un cahier pour checker tes problèmes ou tu... C'est quoi ta façon de débroussailler les problèmes?
Ben là, il y a beaucoup de questions là, dans ce que tu dis.
Pige dans une au hasard, là.
Ce que j'ai fait, à ce moment-là, j'ai appelé l'imprimeur. Parce que lui, il avait déjà fait des promos avec d'autres agences.
OK.
Donc là, je dis, OK, regarde. Moi, là, je te le fonderai pas, cet argent-là. Fait que je me souviens plus que j'avais fait exactement. Je pense que j'ai dit, inquiète-toi pas, tu vas être payé. J'ai juste promis qu'il serait payé. Puis si je n'aurais pas été capable, je l'aurais payé. J'aurais trouvé de l'argent quelque part. Mais ça ne m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu de financement de banque, moi. Jamais, jamais.
Wow!
J'ai toujours fait mes affaires avec mon argent.
Ton crédit, tu l'as pris dans tes fournisseurs puis tu as fait des ententes avec les autres.
Premièrement, je suis un gars hyper prévoyant. Moi. Quand ça va super bien, je ne suis pas du genre à flyer puis m'acheter une Porsche puis je ne suis pas de même. J'empile, puis quand ça va plus dur, ben j'ai du cash, j'ai toujours un bon cash flow, moi. Fait que je suis pas énervé avec ça, tu sais, à cause de ça, tu sais, j'ai un train assez bas par rapport à mes moyens, tu sais.
C'est tellement fondamental ce que tu viens de dire là, c'est la base de tout.
Ouais, c'est ça. C'était quoi l'autre question? Tu dis que les problèmes, qu'est-ce que je fais?
Regarde. C'est ça, ta façon de dire, tu sais, mettons, là, T'as trop de deadlines, t'as trop de tâches, c'est quoi ta méthode de résolution de problèmes, si t'en as une, ou bien c'est très intuitif, ou bien t'es très cartésien, t'écris tout, puis tu checkes le pour les comptes.
Moi, je me décris souvent comme un mini-wheat.
Okay.
J'ai un côté livré, puis j'ai un côté dry, tu sais.
Okay.
Je suis à la fois créatif et cartésien. Puis les deux embarquent selon les situations, tu sais. Dans le sens que, évidemment, j'aurais pas toffé longtemps dans ce business-là si j'avais pas un certain talent de création, parce que j'ai réussi à faire ça. Mais je suis aussi un côté cartésien, dans le sens que quand là, c'est sûr qu'il fallait que je sois organisé, tu sais, j'avais pas le choix. Là. Fait que oui, j'ai toujours eu des listes de jobs, puis les priorités, puis des trucs de même. Puis quand j'ai un problème, quand je vois là, comme, wow, OK, là, premièrement, je fais jamais des moves, je prends jamais des décisions sur le coup de l'émotion.
OK.
Je suis pas un gars qui travaille à coup de tête, moi. Je suis pas comme ça. On a tous des opinions et des émotions. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Comment on les gère? La question est là, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, moi, quand à un moment donné, c'est overwhelmed, là, je suis comme, wow, OK, attends une minute. Là, première affaire que je fais, je décide de rien, je panique pas, parce que ça donne rien. C'est pas... Fait que là, je fais des listes, je m'organise. Après ça, je prends un petit break pour respirer, prendre une petite marche, m'aérer l'esprit. Puis là, je décide. Là, c'est mon côté. Là, j'étais cartésien. Puis quand je décide, c'est des fois, c'est l'intuitif qui embarque, tu sais, dans le sens que des fois, je suis mon gut feeling, là. Qu'est-ce que je fais là, pour régler ce problème-là? T'sais? Des fois, puis là, je te parle de ça à tous les niveaux. Ça peut être un conflit avec une personne. Des fois, on décide de laisser aller ou d'aller voir la personne puis d'en parler parce que c'est quelqu'un qui est significatif pour toi puis tu veux régler ça. T'sais? Fait que moi, c'est comme ça je vois ça. C'est toujours de ramasser les éléments, prendre un petit break, y penser, décider, puis go. Après ça, il faut être dans l'action. Ben alors. Parce que quand tu as un problème, puis si t'en occupes pas, ben il va te péter dans la face, là, c'est clair. Là, mais bon, ceci étant dit, après ça, quand la question de trop de job, j'ai entendu un moment donné dans un autre podcast que le prix à payer qu'on a à payer, tu sais, quand on est entrepreneur, puis ça, ça m'a interpellé parce qu'il y a un prix à payer pour être entrepreneur. Il y a des côtés très positifs. Pour moi, c'est le sentiment d'accomplissement. C'est ça qui me drive, moi.
OK.
Puis dans le travail, en général, pour que les gens soient heureux, il faut qu'ils aient cette impression-là de s'accomplir. Puis peu importe la job que tu fais, tu sais, il y en a qui...
Oui? Tu fais la même chose avec tes employés. Est-ce que tu sens que tes employés ont ce besoin-là de sentiment d'accomplissement? Penses-tu que c'est quelque chose d'universel chez tous les êtres humains?
Je pense que oui, mais à des degrés divers.
OK.
Puis la manière que je vois ça, c'est que il y a plusieurs types de jobs. T'sais. Il y a des jobs qui sont pas complexes, puis il y a des jobs qui sont complexes. Puis il faut aller sur le. Il faut aller. Puis c'est pas. Je respecte les gens. Puis les gens qui font des travaux pas complexes, c'est des personnes qui valent autant que des personnes qui font des jobs complexes. T'sais. Parce qu'on a besoin de tous ces gens-là dans une société. Mm-hmm. Un gars qui lave le plancher, ben on a besoin d'un gars qui lave le plancher parce que sinon, ça serait tout sale puis on rentre dans un hôpital. On ne veut pas que ça soit sale. Fait qu'il est important de cette personne-là. Moi, quand je parle à des gens, je ne parle pas à un compte de banque puis à un job. Je parle à une personne. Okay. J'ai dit, tchao, moi, je respecte le concierge dans notre building autant que le président de la compagnie de mon voisin de palier. Là, t'sais. Si le gars, il est fin puis c'est un humain intéressant. Si le gars, c'est un asshole, ça, c'est une autre histoire. Mais des assholes, il y en a dans toutes les sphères de la société. T'sais.
Exact.
Fait que c'est un peu comme ça, je vois ça, tu sais, j'essaye de... Là, je me suis perdu, je me souviens plus c'était quoi ta question.
C'est ça l'avantage d'avoir un podcast, c'est qu'on peut dériver d'un bord puis de l'autre, tu sais. Mais en fait, ma question, mettons, tu dis que le sentiment d'accomplissement, c'est vraiment ça qui drive, puis on parlait du prix à payer pour être un entrepreneur. C'est quoi cette contrepartie-là? C'est quoi cette... parce que le reward, c'est le sentiment d'accomplissement. Puis le dark side, c'est quoi?
Le stress.
OK. Puis comment tu deals avec ça personnellement?
Ah, écoute, au début, comme je te dis, en général, moi, je pense que ça en prend du stress. Tout le monde en a besoin un petit peu. Parce que sinon, t'es mort. La vie est plate. T'en as besoin un petit peu. Il y a du stress qui est négatif, qui est vraiment destructeur. Puis il y a du stress qui est générateur de créativité puis de drive. T'sais. Fait que... Comment tu balances ça? Moi je suis pas, j'ai jamais été bien stressé par je vais-tu être capable de faire la job, je vais-tu trouver des bonnes idées? Non. Moi, c'était arrivé d'un délai, parce que des fois, les délais étaient vraiment malades, ils sont encore malades. Là. Nous autres, ça va vite, là, on est dans un feu roulant, le train, il va à 200 000 à l'heure. Là. Fait que ça, faut que tu sois capable d'aider avec ça. Cette vitesse-là, là, puis tu sais, quand ils disent en anglais, là, if you can't stand the heat, don't stay in the kitchen, là.
Ouais.
Moi, dans mon monde, à moi, ça va vite. Puis, faut que tu sois capable de suivre ce beat-là, sinon, t'es pas à ta place. Là, okay. Fait que moi, je l'ai géré. C'est sûr qu'au début, j'ai eu des périodes, c'était très tough. Là. Écoute, j'ai fait des insomnies. Puis, quand j'ai appris ça, si j'en dormais plus, là, tu sais. Non, ça, tu as dit que j'ai eu des bouts, j'étais stressé vraiment. Là, aujourd'hui, il y a du monde appelle ça de l'anxiété, je ne sais pas, mais c'était pas de l'anxiété parce que je n'ai jamais pris de médicaments ou quoi que ce soit, mais je veux dire, j'étais stressé. Je voulais que tout arrive, puis j'aime pas ça décevoir. Dernière affaire que je veux, c'est un client me dire ah, je suis déçu. Non, tu ne seras pas déçu, je ne veux pas que tu sois déçu. Puis je ne veux pas manquer mes deadlines. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé un petit peu mon parcours. J'ai décidé d'engager du monde. C'est soit tu dis je refuse des mandats parce que j'en ai trop, ben j'engage du monde. C'est là que tu fais des choix.
Puis, est-ce que. Bon, je vais te poser la question. Ça, avoue que ça t'a pris du temps avant de trouver la balance là-dedans. Parce que ton évaluation du travail à faire, on n'est pas bon là-dedans au début. T'sais. Tu penses que ça va te prendre 3 jours le faire alors que ça te prend 3 semaines. Est-ce que tu as développé des outils et des trucs vraiment pour améliorer ton évaluation du temps que ça va te prendre pour faire un projet versus le monde qu'on est, versus le, c'est quoi les outils que tu utilises pour arriver à avoir une évaluation juste?
L'évaluation, honnêtement, c'est pas que j'ai pas trop de difficultés avec ça. Okay. C'est pas quelque chose qui était tough pour moi, ça.
Tu déconstruis le projet en tâche, dans le fond, pour regarder comment... Tu sais, mettons, je te dis, j'ai besoin de logo, j'ai besoin de mon image de marque, telle affaire, tout dans ta tête. C'est quoi le calcul qui se fait?
Bien, il faut que je le remette dans 2 jours. Fait que si je le remets dans 2 jours, bben il faut absolument que j'aille 2-3 idées à soir, puis 3-4 autres demain. Puis... Fait que tu t'assois, puis tu le fais, c'est tout, tu sais. Puis il faut que tu... moi, je compartimente les jobs, les façons de faire. Ça, c'est une autre chose que je fais beaucoup. Par exemple, un très, très gros projet, là, mettons, j'ai à faire une grosse marque comme Alimel, là. Fait que là, il y a beaucoup de stock, là, parce qu'il faut penser à tout le type de produits, l'architecture de la marque, la stratégie de marque, les marchés, qui achète, où, comment. Là, il y a du stock. Fait que là, tu compartimentes. Tu dis, OK, l'aspect stratégie, c'est ça. L'aspect design, c'est ça. Puis comment on travaille, tu sais? Fait que là, je vais dire, mettons, OK, on va commencer par travailler juste des angles généraux de 2 catégories. Fait que là, on va avoir, mettons, je sais pas, les viandes tranchées puis les saucisses, mettons. Bon, OK. Fait que là, je mets des designers là-dessus. Fait que là, you get the ball rolling, tu sais? C'est un peu comme... Tu sais, ça revient un peu au syndrome de la page blanche, tu sais, quand tu es en création, là, tu sais pas... Comment commencer? Ça, c'est un gros sujet, ça. Parce que moi, honnêtement, comme je te dis, il y a des choses qui ne sont pas naturelles pour moi, puis des choses qui sont plus, tu sais. Mm-hmm. Comme, mettons, trouver des idées, puis des taglines, des trucs de même, puis des promos. Ça, moi,
ça va tout seul.
Ben, pas tout seul, mais je m'enferme 1 heure, là, pas dérangé, puis je vais t'en sortir cette 8, là. C'est pas...
Dis-moi si t'as le même truc que moi, parce que moi aussi, comment je pourrais dire, c'est ma grosse force de sortir des idées comme... super rapidement. Puis mon truc, c'est de sortir des mauvaises idées, tu sais. Sors plein de mauvaises idées parce que si tu essaies d'en sortir rien que des bonnes, tu vas bloquer, tu sais. Fait qu'il faut que tu sortes de la shit. Puis à un moment donné, il y en a 2-3 bonnes qui sortent dans le lot, tu sais. De tous les créateurs que je vois qui ont de la difficulté puis qui ont le syndrome de la page blanche, c'est toujours à cause d'une espèce de croyance que les génies sortent que du bon stock, tu sais.
Exactement. Exactement. Fait que des fois, tu te dis, si tu penses que tu vas sortir quelque chose de génial, c'est la première affaire, tu vas bloquer. Fait que tu brainstormes, tu écris des mots, n'importe quoi, puis là, tu portes quelque chose avec ça, puis à un moment donné, tu commences un premier design, même si c'est de la merde, tu as commencé à travailler. Pendant ce temps-là, puis oui, c'est exactement ce que tu dis. T'en fais plein, puis à un moment donné, il y en a 3-4 là-dedans qui sont bonnes. Tu sais, c'est comme les artistes qu'on entend, là, des fois, là, ils disent ils ont écrit 35 tunes, puis ils ont sorti un album de 12 tunes, tu sais.
Exact. Mais ça, même, ça m'a fait capoter, parce que quand tu m'as envoyé ton portfolio, tu m'as montré tous les designs de Fairly que vous avez fait. Écoute, sont toutes hot. Pour vrai, j'ai checké. Puis, tu sais, c'est une marque que je connais bien parce que j'étais allé au cégep. C'était comme distribué dans les machines. Puis, écoute, tous les designs sont hot. J'aurais pas été capable de trancher parce qu'ils sont tous super modernes, sont tous super slick, tu sais. Puis,
T'es gentil, je l'apprécie. Mais ce que t'as pas vu, c'est les autres qu'on a faites que j'ai pas présentées.
Voilà.
Ce que t'as vu, c'est la présentation.
OK. Puis, quoi, vous n'avez présenté quoi, 15, genre?
Ah, des fois, écoute, je suis sérieux, là, sur les grosses jobs, là, je peux faire des fois 75 des heures. 75 des heures.
Wow! C'est une méchante job de sélection après ça, de dire comment.
Non, mais des fois, avec le back and forth de clients après, là, OK, c'est ça, parce qu'il y a des straps, tu sais, des fois, on présente au chef de marque, qui présente au VP, qui présente au président. Puis là, après ça, il y a d'autres demandes ici et ça. Des fois, là, écoute, on en fait des designs, là.
C'est puis débile.
Ça prend du jus, là. On prend du jus pour ça.
OK, je reviens avec rencontrer les deadlines puis tout ça. Comment, ouais. Parce que là, je te parle de ça, c'est ma bête noire présentement, OK? Comment tu gardes ta santé puis ta forme au travers de deadlines qui n'ont pas de bon sens? Parce que, tu sais, à un moment donné, tu dis comme, OK, ça va être un rush, je vais passer deux semaines, puis tu sais, regarde, il faut que je dorme, faut que je réduise mes heures de sommeil, faut que je mange ça à slide, puis tu sais, mais faut que je livre, tu sais. Mais là, à un moment donné... C'est parce qu'il y a tout le temps un deadline qui arrive. Il y a toujours comme une autre affaire. Puis là, à un moment donné, si tu es toujours dans le rush puis que tu sacrifies tout le temps ton sommeil puis ton exercice puis ta nutrition, la santé prend le bord, le cerveau prend le bord puis ton efficacité descend, tu sais. Fait que c'est quoi tes guidelines pour t'assurer de garder la forme, tu sais? Je veux dire, y a-tu un moment où tu vas dire « Ça me dérange pas de dormir 2 heures par nuit pendant une semaine, mais pas plus que tant » ou bien tu fais comme « Non, mon sommeil, c'est sacré » ou bien c'est quoi tes guidelines?
Bonne question. Je vais revenir à l'aspect deadline. Là.
OK.
Pour moi, je divise ça en deux choses. T'sais. Parce que, tu sais, comme toi ou des artistes en général qui font, par exemple, un projet d'album ou qui écrivent de la musique, mm-hmm. c'est pas pareil. Moi, je suis dans un métier de commande. Je reçois des commandes de clients. Mm-hmm. Je dois livrer à telle date. Quand c'est tes propres affaires, c'est un peu le deadline que toi, tu te donnes, tu sais, mm-hmm. souvent, là. Tu sais, des fois, tu te dis, je peux prendre un an si je veux faire mon album. Je peux prendre 4 mois ou je peux prendre 2 ans. Tu sais. Ouais. Fait que souvent, on se le donne nous-mêmes quand c'est des projets personnels.
Ouais.
Mais quand tu t'en donnes pas, tu perds ton temps, man.
Absolument. Ça prend un deadline.
Pas, ça marche pas. Fait que le deadline, pour moi, il est différent de quelqu'un qui fait de la création pour lui-même. Parce que nous autres, on a un métier de commande. Souvent, on a le choix. Là. Moi, c'est. Regarde, aujourd'hui, là, hier, là, je reçois des courriels à 9h30, ça me le prend avant la fin de la journée.
Oui, c'est ça. J'ai toujours traité mes projets solo, de la même pas solo, mais mes projets artistiques de la même façon parce que, mettons, comme avec Jardin Mécanique, avant qu'on ait composé une chanson, on bookait, on louait la salle puis on annonçait le show. T'sais? Fait que là, autrement dit, notre boss, c'est nos fans. Puis eux autres, ils le savent. C'est booké dans leur agenda. Ils ont acheté le billet. Puis nous autres, il faut qu'on livre un petit album.
Ben, ça, je trouve que c'est une bonne façon. T'sais.
Moi, je trouve que ça fonctionne. C'est juste. Ouais. Ce qui a toujours été problématique, c'est que la première affaire qui fout le camp, c'est ma santé. T'sais. C'est toujours ça que tu finis par négliger parce que tu veux livrer. T'sais. Mais ça fait un certain temps. T'sais. Fait que je reviens à la question. Parce que c'est sûr que tu as traversé un certain âge, ça va bien quand tu as 20 ans, prendre 14 cafés puis passer à travers la nuit, là, mais à cette heure, comment tu deals avec ça?
Ah oui, regarde, j'en ai fait des affaires de fou, là. J'imagine même pas. Là. Avant d'être à mon compte, là, je me souviens, là, on travaillait en pub, mais on avait du fun, par exemple. On drivait, là. Je travaillais dans une place de pub, là. Écoute, je me souviens des journées où on faisait 24 heures en ligne. Puis je dormais 3-4 heures sur mon bureau, puis je faisais un autre 4-5 heures. Ça a-tu du bon sens, ça? Non. Non, pas. Mais moi, je me suis dit, quand je vais partir à mon compte, ça sera pas ça. Ça n'a pas été ça au début. Là. J'ai travaillé comme un malade, là, solide. Là. Puis oui, j'ai eu du stress en fou. J'en ai payé le prix à un moment donné. J'ai crashé. J'en ai parlé. Là. J'ai eu un problème de santé sérieux là, à la fin de 30 ans. Là. Fait que là, j'ai dit, j'ai pas fait une dépression, rien. Là. Regarde, je ne veux pas nécessairement aller là, mais.
Non, c'est correct.
C'est ça, j'ai la mangeuse de chair, tu le sais, là, c'est ça.
Oh, ouais, c'est ça.
Ça a été comme une espèce de...
Wake-up call, là.
Ouais, c'est ça, tu sais, d'être hospitalisé un mois, puis 2 chirurgies, puis c'est tout ça, j'ai fait comme, wow, OK, je peux plus travailler de même, là. Ça a pas de bon sens, là. Fait que là, j'ai dit, OK, délègue plus. Fait que c'est ça que j'ai fait. Moi, je délègue. Okay. J'ai pas le choix. Fait que mon plan initial de travailler tout seul, il a foutu le camp, là. J'avais déjà des employés, mais là, c'est comme, regarde, accepte la situation ou ben donc, fais juste des petits jobs. Mais ça, c'est tough, là, quand t'as tes clients, puis ça roule, puis ça va bien, puis de dire, je refuse des mandats, je fais pas ça, moi, tu sais. Fait que j'ai grossi jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment donné, j'avais des occasions là, pour venir pas mal plus gros, là, du monde qui s'associe avec moi. Puis, tout. Puis là, je me suis dit, ah, non, là, mon gars de feeling disait, va pas là, parce que c'est pas toi, là. Ça va être trop gros pour toi, tu vas être trop dans la gestion, puis ton overhead va être trop gros, puis ça c'est vraiment pas là qu'il faut que tu ailles. Oui, je me parlais à moi-même.
OK, bon, OK, c'est intéressant. Pas là.
Ça, c'est too much. Fait que j'ai jamais été plus que 7-8 dans ma boîte. Là,
parce que ça correspondait pas au lifestyle que tu voulais avoir. Parce qu'en bout de ligne, là, présentement, t'es, c'est toi le boss, c'est toi qui gère ton horaire à quelque part. Fait que ouais. Tu dois te rapprocher de l'objectif initial que tu avais, qui était de travailler tout seul parce que tu voulais de la liberté d'horaire, liberté que tu as aujourd'hui, peut-être même un peu plus que ce que tu avais imaginé, non?
Aujourd'hui, j'ai plus... Ben, c'est sûr, je suis pas rendu à même... Tu sais, là, je suis dans le dernier droit de ma carrière, moi, là. Je travaille moins que je travaillais, ça, c'est clair. J'aurais pas pu continuer cette beat-là. J'ai plus l'énergie que j'avais quand j'avais 30 ans, la drive, que j'étais fou, là. La capacité aussi de gérer bien des projets en même temps. Je sais pas comment je faisais à cette époque-là, mais des fois, je l'en avais jusqu'à 40 ou 45, là, puis tac, 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 qu'est-ce que c'est? Envoie ça au photographe, là, il y a besoin de ça, tac, tac, qu'est-ce que c'est? J'avais le cerveau multitâche débile, tu sais. On marchait, on dirait que je sais pas pourquoi, j'y arrivais, tu sais. J'étais sur mon X, puis je drivais, puis ça y allait, tu sais. J'étais encore de même, mais je travaille moins, j'ai plus le goût de travailler autant. J'ai pas le goût de faire 75 heures semaine, là.
Mais non, c'est ça.
Fait que je délègue, puis... Puis quand j'ai commencé à avoir des employés, je me suis dit tout le temps, je me dis, moi, je veux pas une boîte où mes employés vont faire de l'overtime en malade puis tous les soirs, puis t'es joué brûlé.
OK.
J'ai jamais fait ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours eu une grosse banque de pigistes. Et toutes les fois que les mangas débordaient, j'appelais mes pigistes. Fait que là, mes employés font presque jamais d'overtime. Okay. Presque jamais.
C'est très, parce très que je veux pas brûler, les pigistes te permettent ça. C'est ça, oui. C'est vraiment hot. C'est pas tous les domaines qui peuvent avoir des pigistes. T'sais. Des fois, tu as toujours un threshold. On a peut-être pas assez d'heures pour faire vivre quelqu'un. Tandis que là-dedans, les pigistes, ils font ça à leur compte. Puis là, tu peux leur donner 10 heures d'ouvrage. Puis ça, ça fait leur affaire. T'sais.
Exact. Des fois, moi, là, on peut être 3-4 dans le bureau. Puis j'ai 3-4 pigistes qui travaillent chez eux en même temps. Là. Tu comprends?
C'est très, très hot.
C'est comme ça que je travaille, moi. Il faut que tu pognes les bombes. T'sais.
Oui, c'est ça.
C'est sûr que moi, dans mon domaine, j'ai pas le choix parce que j'ai des gros clients. Faut que j'aille des top guns. Là, c'est des designers très talentueux, spécialisés en packaging parce que c'est très spécialisé le packaging, là, le branding. Mm-hmm. C'est pas pareil comme designer des brochures ou des posters. C'est vraiment un autre game. Il y a beaucoup de normes à respecter du gouvernement, des grosseurs de typo, les tableaux de valeur nutritive, tout ça. Il y a bien du stock.
Ouais, c'est vrai, tu fais tout ça. Je veux rentrer dans un du knowledge un petit peu plus spécifique parce qu'il y a probablement beaucoup de monde qui vont écouter ce podcast-là qui sont... des aspirants entrepreneurs ou des gens qui vont s'intéresser au marketing web ou à d'autres choses, à des choses similaires. Je veux que tu me parles du concept de positionnement parce que t'en parles puis c'est un concept marketing que, comment je pourrais dire, moi j'apprends le marketing un peu on the side en suivant des formations et tout ça, mais il y a des grandes lignes, des grands concepts qui sont un peu abstraits pour moi. Fait que quand on parle de positionnement, on parle de quoi précisément?
Ben moi, je divise ça en deux sections. Le positionnement des produits sur lesquels je travaille, ça, okay. C'est une chose. Et les positionnements de mon entreprise à moi. C'est plus ça que tu veux parler, toi.
Ouais.
Le positionnement, pour moi, c'est... qu'est-ce que tu vends? C'est quoi le service que tu vends? Puis, à quel prix? Puis, quel marché tu vises?
OK.
OK? Donc, moi... C'est sûr, regarde, puis là, ça m'amène à un autre point, c'est que des fois, on a une idée, puis ça bifurque sur d'autres affaires. Je te donne un exemple. Quand j'étais plus jeune, je dessinais, puis moi, je trippais ces gars qui faisaient du layout au feu, puis tu sais, je voulais être illustrateur. Puis quand j'ai commencé en sortant du cégep, j'ai eu des contrats d'illustration parce que j'étais un peu à mon compte avant de partir Studio D. J'ai en deux jobs, j'ai fait à peu près un an, là, dans le sol chez mes parents. Puis là, j'avais des contrats d'illustration. J'avais pogné ça. Je faisais des livres d'enfants d'école, tu sais. Je dessinais des illustrations. Ça marchait, j'avais plein de contrats. Probablement parce que j'étais un bon vendeur. Mais honnêtement, j'étais assez poche illustrateur.
OK.
Sauf que je ne m'en rendais pas trop compte, mais je suis allé travailler dans un studio d'illustration où là, j'avais des vrais illustrateurs, des gars qui étaient dans des Major Leagues. Puis je regardais ces gars-là aller, je dis, voyons donc, j'arrive pas à achever de ces gars-là. Là. Fait que je voulais être illustrateur, mais finalement, je me suis dit, OK, je suis poche là-dedans. Je peux continuer à essayer de continuer cette ligne-là, mais je vais avoir une carrière médiocre, tu sais. Fait que là, l'autre job que j'ai fait après, j'ai fait du packaging. Puis là, quand je suis parti à mon compte, j'ai commencé à avoir plein de contrats de packaging, tu sais. Fait que là, c'est comme si ça m'a choisi plutôt que moi, j'ai choisi ça, tu sais. Mais à la base, c'était pas nécessairement mon choix, mais je me suis aperçu que tout le monde m'appelait pour ça. J'avais des contrats à pelleter. Ben, j'ai dit, okay, je dois être bon là-dedans quelque part. Là, je dois avoir quelque chose. Fait que je suis devenu un spécialiste de branding, packaging, comme ça.
T'as pas eu la résistance que beaucoup de monde ont, particulièrement dans le milieu artistique, de te faire, je pense, mettons, à André Mathieu, tu sais, qui était un pianiste classique extraordinaire, puis que lui voulait devenir un grand compositeur, mais le public le voulait comme interprète. C'est comme, ah, oh, t'es tellement bon quand tu joues du Mozart, puis comme, ouais, mais c'est pas ça que je veux faire. Puis au lieu d'accepter le mandat que le public te donne, ce que t'as fait à quelque part, t'as dit, tu l'as-tu senti comme un compromis ou bien t'as fait comme, ah ouais, c'est ça que vous voulez, moi vous le donnez, ça va me faire plaisir, tu sais.
Non, je l'ai pas senti comme un compromis parce que je me rendais compte que j'étais pas bon dans ce que je voulais faire à première abord, tu sais.
Ah, OK.
Fait que ça n'a pas été un gros deuil, là, c'est genre, regarde, OK, je suis pas bon là-dedans, mais je veux travailler, puis je veux avoir du succès. Puis je suis un designer graphique à la base, je suis pas un illustrateur, tu sais. Mm-hmm. Puis là, ben, je fais du design graphique, puis je suis dans un créneau qui a beaucoup de jobs, puis que... C'est ça. Fait que voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. J'ai pas eu un gros... Non, la crise existentielle, puis ouais, ça s'est pas passé comme ça. Non, j'ai accepté ça, pardon, avec plaisir. Je me dis, OK, I'm fine. Puis j'ai eu du fun, tu sais, j'ai eu du fun à faire ça. Là.
C'est très
pas bien. Comme si... C'est drôle parce que je me rappelle un de mes cousins, un moment donné, mais... qu'est-ce qu'il me disait, tu sais? Ah, dis-moi, tu sais, c'est pas comme un gars qui fait des boîtes de tête. Je fais ça, moi, des boîtes de tête, tu sais. Tu sais, dans le sens que il voyait ça un peu comme péjoratif, tu sais.
Ben, oui, c'est incroyable.
Moi, j'étais là, j'ai... Non, moi, j'ai un contrat, je fais des boîtes de pilules. Il y a des contrats que j'ai de la création, beaucoup, super la fun, tu sais, en alimentation, entre autres. Des fois, tu vas faire, je sais pas moi, des canettes, des microbrasseries, là, tu t'éclates, là. Ben, quand je fais des boîtes de pilules de pharma, ben, c'est pas de la création, là, tu sais.
Oui, puis non, parce que, regarde, moi, je te donne un exemple. Je suis un tripeux de branding. Je veux vraiment qu'on rentre là-dedans parce que je capote sur ça. C'est vraiment une de mes passions. Et puis, comment je pourrais dire? Je compare souvent ça. C'est comme, j'ai une de mes chums qui est venue me faire écouter un album chez nous il y a 2-3 jours, qui s'appelle Josiane Rouette. Elle a un excellent projet. Puis son dernier album, puis ses photos, puis son look vestimentaire, puis tout est tellement cohérent, tout est tellement... homogène puis tu sais ça, cohérent. J'ai dit ton projet c'est comme une boîte de biscuits Oreo, parce que pour moi je trouve que Oreo, tu sais, ça goûte ce que l'emballage a de l'air, tu sais, puis le logo, puis je trouve tellement tout est parfaitement packagé que comparativement, mettons, aux biscuits que ta grand-mère a fait, qui sont super, sont aussi bons que les biscuits Oreo, mais sont tous un peu imparfaits, ils ont pas ils goûtent pas, sont pas standardisés, tu sais, puis ce qui peut être une qualité dans certains domaines, mais je trippe sur l'uniformisation d'un brand, j'adore cet aspect-là, puis c'est tellement facile de se planter là-dedans. Ouais. Fait que ouais. Je t'amène, je sors du sujet du positionnement, puis je t'amène sur c'est quoi les erreurs de branding qu'un débutant fait tout le temps. Parce qu'on est je fais juste une petite parenthèse, on est à l'époque du personal branding. Il y a beaucoup de monde qui vont se partir des chaînes YouTube, ils vont faire un paquet d'affaires, ils vont faire des photos. Puis souvent, moi, je le remarque, il y a du monde que je coach sur cet aspect-là, que ça fonctionne pas. Puis je suis plutôt intuitif. Je le sais quand la photo puis le traitement d'image fit avec le logo. Mais pour quelqu'un d'expérience comme toi, c'est quoi concrètement ces erreurs-là qui sont à éviter?
Je te dirais, la première erreur, c'est de vouloir plaire à tout le monde.
Wow, OK.
OK. Quelque chose qui a du style, qui est un style fort, va nécessairement faire triper du monde, puis il y a du monde qui va haïr ça. Puis quand tu essaies de tout mettre ensemble pour faire quelque chose qui va plaire à tout le monde, ben tu n'auras pas de style. Ça va être n'importe quoi. Okay? Mm-hmm. J'ai une phrase en branding que je dis souvent. C'est quoi la définition d'un chameau? Un chameau, c'est un cheval pur sang qui a été désigné par un comité. Tu sais, quand tu essaies de tout raboudiner des idées des autres, ça donne pas un cheval pour cent. Pour cent, ça donne un chameau.
Oh my God! Elle est excellente. Ah ouais, c'est ça. Ça a été désigné par un comité parce que tout le monde essaie de plaire à tout le monde. Puis finalement, ben, parce ça donne...
T'as demandé à ton beau-frère qu'est-ce qu'il en pense, puis t'as pris un petit peu sur... OK, t'as une compte de ça, puis t'as demandé à ta cousine, à ta blonde, puis là... T'essaye de faire quelque chose que tout le monde va aimer, puis ça va être n'importe quoi. Là. Aie une vision claire de ce que tu veux faire, positionne-toi là-dedans, puis fonce là-dedans. Après ça, sois cohérent. Oui, la cohérence est super importante. Tu sais, assume ce que t'es. Assume ce que t'es. Si toi, t'es un fucké, ben, fais quelque chose qui a de l'air fucké. C'est pas vrai que des fuckés, ils marchent pas. Il y en a des fuckés qui ont des gros succès. Beck, Nirvana, c'est des fuckés, ces gars-là.
Puis surtout, aujourd'hui, on est 7 milliards sur la planète Terre. On est à une époque où ce que tu peux gagner ta vie en faisant des jujubes à réglisse noire en forme de toutou pour des chiens barbettes qui sont, tu sais, je veux dire, dont le propriétaire ont une Mercedes bleue. Je veux dire, tu peux être tellement spécifique dans ce que tu veux, puis tu vas quand même avoir des millions de clients, tu sais.
Ben, c'est ça. Moi, je reviens à dire, c'est que assume qui t'es, puis vas-y, tu sais.
Okay.
Si toi, t'es quelqu'un qui aime faire de la musique plus lisse, plus clean, ben fais ça. Mm-hmm. Fais-les bien. Puis assume ce que t'es. Okay. Ça va-tu marcher après ou pas? Je ne sais pas. Mais essaye pas d'être quelqu'un d'autre parce que ça prend. Surtout les artistes, il faut que tu sois authentique. Tu ne peux pas comme faker quelque chose que tu n'es pas. Là, là tu vas être à côté de la plaque. Là.
Une autre affaire que je remarque chez les gens qui travaillent leur propre branding, c'est qu'il y a un manque criant de goût, de jugement esthétique, de jugement de qualité esthétique, tu sais. De quelle façon est-ce que tu t'assures que ce que tu designs, c'est up-to-date, que ça fait, tu sais, que ça fit à notre époque, là, tu sais, que... Le pire exemple que je donne, c'est le duo country Gérard et Ginette avec leurs photos qui sont en contre-jour avec l'écriture en comics en MS. Là, tu sais, je veux dire, je parle de l'extrême, mais tu sais, parce que c'est tellement toujours changeant. Comment tu t'assures d'être bien de ton époque quand tu designes de quoi?
Je pense qu'il faut bien s'entourer. Faut que tu te fasses aider. Quand tu vois que tu n'es pas bon dans quelque chose. Parce que moi, je compartimente les affaires, tu sais.
Okay.
Ce que je vends comme service, moi, je dois être un top gun. Je dois être meilleur que monsieur tout le monde. Parce que sinon, je ne peux pas faire une business avec ça, tu sais. Donc, je dois vendre un service de design de haute qualité parce que j'ai dit, tu sais, parenthèse de positionnement. Moi, mon positionnement, c'est, je suis une petite agence qui joue dans une grosse ligue. Qui a des gros clients, mais qui est capable de prendre des petits mandats aussi parce qu'on est petit, j'ai pas un gros overhead, puis j'ai une certaine flexibilité d'un tarif. Fait que c'est ça. Moi, je vends des Acura qui ont l'air des Mercedes, puis tu payeras pas le prix d'une Mercedes, mais je vais être capable d'en faire de ça. Tu sais, je suis positionné de même, puis c'est le genre de client que j'ai. Tu peux faire du design à plus petit niveau, puis c'est pas moins bon, puis moins... Tu sais, je dénigre personne. Si toi, t'as pas le goût de travailler des grosses entreprises, ben tu peux faire juste des logos pour tes chums, puis ça va être bien correct, là, tu comprends? Il faut juste comprendre... Bon, maintenant, là, on parle plus de qu'est-ce qu'on fait pour nous, l'artiste qui se vend lui-même.
Mm-hmm.
C'est pas vrai que tout le monde est bon dans tout. Tu sais, moi, je fais des affaires pour ma propre entreprise. Puis là, bon, OK, surtout quand tu commences, tu n'as pas d'argent, tu te dis OK, je vais faire mon site web, je vais faire ma comptabilité, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais à un moment donné, Mais ça reste dans mon univers à moi. C'est pas quelque chose que je présente au public, tu comprends? Mm-hmm. Mais des fois, je m'aperçois que okay, ça me fait chier. Par exemple, moi, déboguer de l'informatique, là, au début, je l'ai fait, là, mais j'ai des techs que j'appelle, puis ils me déboguent ça. Ça, je touche pas à ça, je viens fou. Là. Je suis un gars patient, mais ça m'écœure. Tu sais, j'aime pas ça. Passer du temps là-dessus. J'ai d'autres choses à faire. Tu sais. Mais il faut que tu t'entoures. Tu sais, c'est sûr qu'au début, quand t'as pas d'argent, tu dis, je vais tout faire moi-même, puis ça va me coûter moins cher, puis tout. Mais des fois, il y en a qui sont bons dans plein d'affaires, puis ça marche. Mm-hmm. Tu sais. Mais c'est pas tout le monde. Il y en a, là, tu sais, comme, OK, pour écrire tes notes, t'es bon. Pour l'enregistrer, t'es bon. Faire ton logo et ta pochette de disque, ça, t'es pas bon. Mais t'es mieux d'aller voir. Là, je te dis, ça peut être. T'sais. Puis même là, j'ai dit, hey, écoute, je te donne un exemple. Leonard Cohen, il a sorti un album à un moment donné, ça s'appelait. Je pense que c'était Modern Problem ou quelque chose de même. Okay. Écoute, une pochette affreuse. C'était horrible, là. Toutes mes chums des Angers, on s'envoyait ça, tu sais, on n'en revenait pas. Un artiste de son calibre, tu sais. Fait que là, on a dit, coudonc, c'est ça, beau-frère, qui l'a fait, c'est ça, c'est quelque chose. Il dit, c'est sûr qu'il n'est pas allé voir un pro pour faire ça, tu sais. Fait que moi, j'avais posté ça, j'avais mis une petite joke. J'aime pas critiquer ses réseaux sociaux, mais ça.
Non.
J'ai dit, c'est pas modern problem, c'est graphic design problem, tu sais. Tous mes chums, ils avaient posé, tu sais. Fait que moi, je dis, faut s'entourer, puis juste à être lucide, comprendre dans qu'est-ce qu'on n'est pas bon, tu sais.
Exact, exact. Puis c'est là le point que je veux toucher, parce que c'est souvent, moi, ce que je dis, c'est que le pire problème d'un artiste, puis tu sais, je parle d'un artiste, autant designer graphique commercial qu'un artiste musical, c'est il y a deux problèmes. T'as celui d'avoir une trop haute estime de toi-même, puis d'en avoir une trop basse. C'est les deux pires problèmes. Fait que d'avoir une autocritique qui est juste, tu sais, penser que t'es bon dans quelque chose alors que t'es poche, ou bien que t'es bon, mais ce que tu fais, c'est outdated, c'est un problème. Ça arrive souvent. Je connais des designers graphiques qui ont une technique incroyable, puis ce qu'ils font, c'est hot, mais ça fait 2005, tu sais. Fait que... dans ton équipe, est-ce que t'as remarqué des façons, est-ce qu'il y a des revues qui viennent de sortir? De quelle façon est-ce que vous générez des idées que vous vous gardez à jour dans les esthétiques au sein de l'équipe?
Toujours garder l'œil ouvert. Toujours être intéressé par ce qui se fait.
C'est comme ça.
Donc, moi, quand je voyage, quand je me promène, je regarde tout le temps ce qui se fait. Je vais dans l'épicerie, je ne fais pas juste faire mon épicerie, je regarde les packs. Ah, regardons ça, c'est beau. Je prends une photo. J'amène ça à l'équipe. Là, je regarde, regardez, ça c'est hot, regarde, ils ont pris cette approche-là. C'est pas pour les copier, c'est juste pour dire. Regardez les trends cette année, c'est un peu ça, tu sais, plus blanc, plus épuré. Puis là, nous autres, de notre expérience, on les assimile, tu sais. Puis moi, je dis toujours, tu sais, c'est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne des vieilles pommes, tu sais.
C'est
ton intérêt qui fait que tu vas rester up-to-date. Si t'es blasé, puis t'aimes plus ta job, tes designs ils vont l'air update. Là. Mm-hmm. Ça veut dire que t'es pas à l'écoute, tu regardes pas, puis t'écoutes pas ce qui se passe. Puis ça aussi a un lien avec la culture générale d'une personne. Okay. Moi, je pense que pour être un bon designer, puis un bon artiste, il faut que tu cultives ta culture générale. Il faut que tu sois intéressé à plein d'affaires. Mm-hmm. Écoute ce qui se passe. Tu peux pas vivre en ermite, là, puis penser là, que... Moi, je crois pas à ça, mais c'est sûr qu'il y en a des exceptions. Là. Je suis pas certain que Jean Leloup, il regarde tout ce qui se passe, mais ça, c'est un être à part. Là,
c'est ça.
Mais je veux dire, en général, là, comme un immortel comme moi, je suis pas un génie comme Jean Leloup, là, ben moi, je regarde ce qui se passe, puis je m'intéresse à tout, puis après ça, j'essaye de driver l'équipe avec ça, puis c'est comme ça qu'on fait ça.
C'est très hot. Autrement dit, tu remplis ta boîte. Oui. À inspiration, c'est tout le temps ça. T'sais, moi, avant que je rentre dans un processus, même si c'est pour créer un logo ou bien pour pour créer mon site web ou bien pour créer une chanson. Je veux dire, je vais passer des jours à consommer ça, tu sais. Je vais me faire des tableaux Pinterest de logos qui m'inspirent, qui sont up-to-date. Je vais regarder des sites web, je vais regarder comment ils sont structurés, c'est quoi les couleurs, c'est quoi la vibe que ça dégage. Puis la même chose avec les tunes, tu sais. Si tu te pitches dans du songwriting sans avoir préalablement écouté une batch de tunes dans l'esthétique, dans la direction que tu veux prendre, ben, t'es batté. Je veux dire, tu vas toujours virer dans les mêmes idées puis tu vas être outdated rapidement, tu sais.
Je suis d'accord 100% avec ça. C'est comme ça. Il faut que tu... C'est pas vrai là, qu'on... L'inspiration puis la création, c'est pas vrai que ça part de rien. Là. On part toujours de quelque chose, de notre expérience, quelque chose qu'on a entendu puis qu'on transforme puis qu'on met à notre manière, à notre patente. On crée notre univers à partir de qui on est et des expériences qu'on a. Parce que pour moi, là, une personne, c'est ce qu'on est comme personne, on a une génétique qu'on ne peut pas changer, puis on est le résultat de notre éducation, d'où on vient et les expériences qu'on a eues dans nos vies. Mm-hmm. C'est ça un artiste. Après ça, c'est comment tu canalises ça en faisant de la création.
Exact, exact.
Et là, puis si tu arrêtes de tout te regarder et tout écouter, moi, je pense que c'est contre-productif. C'est pas vrai. Tu sais, des fois, j'entends des clients, des fois, ils vont me dire « Ah, j'ai vu quelque chose que j'aime, mais je veux pas te l'envoyer parce que je veux pas t'influencer. » Non, non.
Influence-moi.
Je ne le copierai pas. Je vais juste savoir où tu vas aller.
Exact.
Donne-moi plus d'infos possible que tu veux, puis on va arriver au point que tu veux. Parce que moi, je dois satisfaire un client. Je le fais pas pour moi. Tu sais, ça, c'est la différence entre un métier de commande, faire de la création sur commande, de faire de la création pour un artiste qui sort ses choses, tu sais.
Ben, tu vois, je le perçois pas comme si différent que ça, parce que, ultimement, là, c'est vraiment ésotérique ce que je vais dire, mais ultimement, t'es ton propre client, tu sais, dans le sens que si tu travailles pour toi, t'essayes de te satisfaire toi-même, t'essayes d'atteindre le standard que tu t'es fixé. Puis moi, j'ai toujours dit, si t'es pas ton artiste préféré, je veux dire, la satisfaction client est ratée, là. Tu sais, je veux dire, t'as pas le choix. Faut que tu sois ton band préféré, ton peintre préféré, dépendamment de l'art que t'as. Fait que, il faut que tu comprennes c'est quoi tes attentes puis que t'essaies de les rencontrer, tu sais. Fait que, autrement dit, puis là, je trouve que t'as débunké un mythe incroyable. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui a de l'expérience dire ça par rapport à l'inspiration, tu sais. C'est qu'on a l'espèce de croyance que c'est un truc divin qui vient du ciel. Puis honnêtement, j'ai eu peut-être quoi 3 expériences de même là, de me lever le matin avec une tonneau complète que je sais pas d'où c'est que ça vient. C'est même pas dans le style de ce que j'écris puis de la pondre comme ça. Mais généralement, on modifie ce qu'on entend. On fait des mélanges. On fait plein de trucs de même. Puis
des fois, c'est sans t'en rendre compte.
Oui, exactement. Exactement. Puis l'autre façon que je fais, c'est que oui, il y a une portion qui est inconsciente, mais quand tu l'assumes aussi de dire comme, regarde, je vais faire, mettons, comme une façon que je crée, c'est littéralement de déformer volontairement quelque chose. Tu sais, quand t'es dans un deadline qui a pas de maudit bon sens, mettons qu'il faut que j'écrive une batch de tunes, de 10 tunes pour un projet X dans 2 semaines, ben c'est pas compliqué. Je vais prendre une tune de Ozzy, mais je vais mettre les accords d'une tune des Beatles avec des paroles de Jean Leloup, puis tu sais, je vais modifier tout ça, puis regarde, 2 heures plus tard, j'ai une tune, personne va savoir aussi que j'ai pris l'inspiration.
Oui, puis ça se peut qu'elle soit bien bonne, ta tune.
Oui, exactement.
Et who cares que tu t'es inspiré? Je veux dire, c'est pas vrai que les gens... T'as raison, là, c'est comme ça. C'est... Après ça, il faut juste connaître la ligne entre « je suis trop proche de ce que j'ai entendu » parce que là,
exact.
Tu te copiages. C'est pas ça qu'on parle.
Mais même à partir de là, à partir du moment où que tu juges que t'es trop proche, ben modifie ça, oui. Modifie ça, paf, c'est réglé. T'sais.
C'est ça. Ou écris nos tunes, tu sais.
Exactement, oui, qu'ils aient un autre, tu sais, tout simplement. Hey, je veux rentrer dans le leadership parce que t'as une humilité incroyable, t'as une approche incroyable. J'ai pas été ton employé, mais je suis persuadé que l'ambiance qui règne au bureau doit être super stimulante puis agréable. As-tu lu là-dessus? As-tu volontairement développé des skills précis de leadership et de direction d'entreprise ou bien t'es comme un autodidacte?
Ben regarde, moi mes deux grands-pères étaient des entrepreneurs, OK?
OK.
Sauf que malheureusement, mon grand-père Bézilet, du côté de mon père, il est mort 3 semaines après ma naissance, puis mon grand-père Grenier, du côté de ma mère, lui, j'ai pas pu... Il est mort avant que je parte en affaires, fait que j'ai pas eu de mentor, j'ai pas personne qui m'a aidé à développer ça, le sens des affaires, ça. J'ai appris vraiment sur le tas, puis comme ça. avec essai-erreur, puis l'expérience, tu sais, c'est en le faisant que je l'ai fait. Un moment donné, il est arrivé un moment donné, je vais te dire, quand j'étais dans la trentaine, puis j'avais des employés comme quasiment le même âge que moi, juste un petit peu plus jeune. Là, j'avais des problèmes à faire la différence entre les différents chapeaux qu'il fallait que je porte. Okay. Parce que t'es en maison, t'es un chum, t'es un père de famille, t'as des amis, t'as des employés. Puis à un moment donné, je voulais peut-être être trop Joe Cool, puis j'étais comme rendu chum avec mes employés. Puis ça, à un moment donné, la ligne, ça marchait plus. Là. J'étais comme trop chummy, puis pas assez boss. Puis là, je t'avoue ce que j'ai fait. J'ai consulté un psychologue.
OK, yeah, man. Yes.
Un psychologue behavioriste. OK? Des comportements. OK? Puis lui, il me disait, attention. Il dit, comprends bien qu'est-ce que c'est un ami puis qu'est-ce que c'est un employé. Un ami, c'est quelqu'un que tu peux te confier sur toutes tes affaires. Tes problèmes de couple, tes problèmes d'argent, toutes sortes d'affaires. Mm-hmm. C'est ton confident. Tu peux pas faire ça qu'un employé. Ton employé, t'as une relation d'autorité dessus, tu sais. Toi, tu payes son salaire, tu lui demandes des choses. Fait que tu peux pas être vraiment son chum. Tu peux être friendly avec, tu peux être respectueux, mais aller prendre des bières tous les soirs, ça marche pas à un moment donné. Là. Tu peux juste faire des affaires de même. Fait que faut juste que tu prennes cette décision-là que moi, je suis un patron, je respecte mes gens, je les engueule pas, tout ça. Mais je ne suis pas vraiment un ami.
OK. Un patron. Puis, parce que concrètement, avant que tu consultes ce psy-là, c'était quoi le genre de problème que tu avais? C'est qu'il ne respectait pas les deadlines, c'était trop chill?
Non, c'était plus au niveau relationnel. Tu sais, je sais pas, moi, il y en avait une fille, j'arrivais, elle se faisait appeler chouchou, puis l'autre, là, j'étais là, comment ça, qu'elle se fait appeler chouchou, là, du boss, là, tu sais? Il y a quelque chose que je ne fais pas correct dans ma manière de parler aux gens ou de les traiter qui fait qu'il y en a qui sont mieux que d'autres. Fait que là, il a fallu que je comprenne ça, là, ce processus-là.
Okay.
Que traite les gens avec respect comme des employés, puis ça va bien aller. Va pas plus loin que ça, tu sais.
Okay.
C'est plus ça, là. C'est un peu un gros sujet, là, un peu dur à expliquer, mais c'est au niveau relationnel, moi.
OK, c'est très hot, très hot.
C'est relationnel. C'est pas que j'avais des problèmes de lui, il fait un job, il fait pas un job. Après ça, au niveau du leadership, je vais te donner un exemple des affaires qu'il faut faire ou pas faire. Puis ça, c'est super important parce que surtout en 2021, puis l'après-pandémie, puis tout, je pense que le style de leadership des entrepreneurs, il faut que le monde comprenne des affaires, là, qu'il y ait des choses qui changent, là.
Par exemple,
premièrement, il faut être flexible avec les employés. Les gars autoritaires là, qui fais-moi ça de là, puis se faire parler dans le casque, tout, ça marche plus ça. Surtout les jeunes, ils veulent pas un gars qui lui crie par la tête. Ça marche pas ça. Moi, j'ai bien des défauts, là, on n'a pas assez de temps pour en parler. Là. mais je suis pas colérique. Je suis pas un gars de poignée nerf. Pourquoi? Parce que quand je suis en colère, je l'exprime pas, comme je te dis, j'y pense, je me calme. Puis après ça, c'est quand j'ai des choses à dire à personne. Bien, je vais en faire venir tout seul, puis je vais le dire tout seul. Parce que quand tu parles à quelqu'un, puis tu l'engueules devant d'autres mondes, tu l'humilies, cette personne-là.
Absolument, absolument.
T'as détruit, puis t'as dit, moi, je veux pas faire ça. Tu fais pas ça, ça se fait pas. Puis il y a des patrons qui font ça, tu sais. Puis des fois, tu te dis, OK, on est en 2021. Tes employés, surtout quand ils sont bons, là, puis tu y tiens, là, faut que tu t'arranges pour que le monde veuille travailler pour toi, là.
Okay. Exact. Surtout dans des métiers spécialisés comme ça, de trouver quelqu'un qui est talentueux, qui est de qualité. S'il est bon, il va parler de toi. Si t'es un boss, si t'agis comme un trou de cul, ben là, ça va se savoir vite, puis t'en auras plus d'employés, là, tu sais.
Exactement. C'est exactement ça. Faut que tu donnes le goût aux gens de travailler pour toi.
Mm-hmm.
Ça, c'est en les respectant.
En étant inspirant aussi. Est-ce que tu te donnes une espèce de mandat de montrer l'exemple à quelque part sur certains aspects?
Ça, c'est une bonne question parce que je fais comme plus la même job qu'eux, tu comprends? Je délègue. Ouais, moi, c'est des seniors qui sont autonomes, là, ma gang. Là. Okay. Donc, j'ai pas trop besoin d'être. De lui dire quoi faire et tout. J'y dirige de temps en temps. Je vais te dire, mon rôle, c'est beaucoup la gestion, le service à clientèle, la vente, diriger la création. Puis des fois, les designers, ils sont, tu sais, des fois, ils sont bloqués un peu parce qu'ils ont sorti plein de bonnes idées, puis le client demande d'autres affaires, et puis ils ne savent plus comment. Fait que là, moi, des fois, je lui dis, OK, essaye ça, essaye ça, essaye ça, parce que moi, j'ai un regard extérieur un peu, là. Un peu comme un réalisateur d'album, là. Pas lui qui a créé tout, mais il entend ça, il fait comme, OK, toi, t'es trop dedans, là, depuis 4 mois, là.
Ouais,
moi,
c'est ça.
J'ai une autre idée, là, pour faire ça, puis là, il t'amène ailleurs, des places que tu pensais pas, là. Mm-hmm. C'est un peu ça que je fais, moi, avec mes employés, tu sais, parce que je design plus réellement, j'ai plus le temps, tu sais. Ça fait un certain temps de ça, tu sais. Mais rôle d'inspirant, tout, moi, je pense que c'est juste d'être moi-même, puis essayer d'être le plus cool possible, puis d'avoir du fun dans les projets, là, tu sais. Des fois, je dis à ma blonde, je dis, tu sais, il faut être à son affaire, puis il faut être, tête dans nos trucs, mais tu sais, la vie, c'est pas juste payer des factures puis travailler fort, c'est aussi avoir du fun, tu sais. Faut balancer les deux. Puis idéalement, de balancer les deux en même temps, si on est capable, tu sais. Pourquoi une activité plate, on peut pas mettre du fun dedans? Si on fait la vaisselle, on met de la musique cool, puis on essaie d'avoir du fun, tu sais.
Ça a l'air anodin, mais c'est tellement plein de sagesse que tu viens de dire là.
Mais moi, je pense qu'il faut intégrer des aspects ludiques dans le quotidien, dans des choses simples de la vie. Puis des fois, je reviens à l'accomplissement. Pour moi, l'accomplissement, c'est pas nécessairement l'objectif qui est important. C'est, t'es-tu heureux quand tu fais ça? Est-ce que ça te remplit de, tu sais, est-ce que t'as un sentiment d'accomplissement? T'as-tu quelque part du fun? C'est sûr que la job parfaite, elle n'existe pas. Il y a des affaires pas le fun qu'on fait dans nos jobs. Tout le monde est comme ça, tu sais. Puis après ça, l'accomplissement, c'est pas la même chose pour tout le monde. Il y en a qui veulent être big, puis il y en a d'autres. Une madame, peut-être son accomplissement, c'est de faire son jardin, puis son petit potager, puis c'est super pour elle parce qu'elle est heureuse, là. Mm-hmm. Son accomplissement, c'est ça. Son projet, c'est ça.
Moi, autrement ça dit, on se fixe des buts pour pouvoir faire le chemin, pour y arriver, pour pouvoir grandir pendant le chemin, puis pas seulement avoir du fun, apprendre, puis tout ça. Puis s'il n'y avait pas de but, il n'y aurait pas de mouvement, mais le but lui-même ne sert à limite qu'à vivre les expériences qu'on en vive en s'y rendant, tu sais.
Le chemin qui est le fun, tu sais.
Exact, exact.
Quand on arrive à la destination, c'est cool, mais il finit, tu sais.
Mais, c'est ça.
Et moi, j'aime mieux le mot but objectif que rêve.
Pourquoi? C'est,
parce que rêve, pour moi, c'est un peu abstrait. C'est un peu comme ça a quelque chose de pas réel. Je transforme ce mot-là en objectif.
Okay.
Je me dis, OK, mettons, j'ai un rêve de faire telle affaire. Es-tu réaliste, ce rêve-là? Ou il n'est pas réaliste? Tu sais, mon rêve, c'est je veux chanter comme Peter Gabriel, puis je veux faire une tournée en Europe à travers le monde. Je ne chanterai jamais comme Peter Gabriel. Je ne ferai jamais une tournée en Europe parce que ce n'est pas mon choix de carrière. Tu sais. Fait que ça, c'est juste un rêve. Tu sais. Ce n'est pas quelque chose qui est réaliste. Tu sais. Mais si, mettons, je me dis, j'aimerais ça. Avoir un chalet à m'amener, ça, c'est un objectif.
Puis c'est encore plus un objectif quand il y a une date puis qu'il y a un plan.
Un plan, puis là, après ça, t'es dans l'action. Tu fais ce qu'il faut pour... Puis les résultats, puis mettons un artiste qui sort un album. Là. Moi, je pense, yeah, encore là, c'est mon idée à moi. Pour moi, l'objectif, c'est pas, OK, je veux vendre 50 000 albums. C'est, je veux sortir un album. Ton objectif, c'est de faire un bon album. Après ça, il y a des paramètres qui font qu'il y a des choses qui sont hors de contrôle sur combien tu vas en vendre. Tu comprends? Après ça, tu peux faire. Donc, tu pourras en vendre beaucoup. Donc, fais ton album, travaille bien fort sur la création, travaille bien fort sur l'enregistrement. Après ça, tu as de la promo, puis tu as ci, puis tu as ça. Ça, c'est une autre histoire. Là. Mais ton objectif, c'est de sortir un album. C'est pas d'en vendre tant. Là. Parce que si tu penses de même, je vais en vendre tant. Là, tu vas penser, je suis assez commercial, je suis assez... Là, tu vas oublier ton objectif principal d'être toi-même, d'être dans ton univers, puis de focusser sur ta création à toi, puis univers à toi, qui peut être un peu bébite, là, mais des fois, c'est ça qui marche aussi. Là.
Ça revient à ce que tu disais au début, de si tu essaies de plaire à tout le monde, finalement, ça va faire de quoi de beige puis de plate. T'sais, tu veux polariser les gens en étant en cohérence avec ce que tu es.
C'est ça, exact, t'sais.
C'est très, très hot. Hey, Louis, je te remercie énormément d'avoir participé. On va closer ça. Je veux, parce qu'il y a sûrement avoir beaucoup d'entrepreneurs qui vont regarder ce podcast-là. Où est-ce qu'on peut te rejoindre puis avoir des soumissions ou bien faire affaire avec tes services?
Ben, en fait, il faut aller voir sur notre site web, studiod.ca, ou m'appeler directement sur regarde, sur mon cell, parce que je peux donner mon numéro de cell, c'est 514-771-2026.
Parfait.
Sur le site aussi, vous avez les adresses courriel, tout ça.
Parfait. Fait je vais mettre le lien dans la description en bas pour ceux qui le regardent.
On fait du branding, on fait beaucoup de choses en des PLV en magasin. On est vraiment spécialisés consommateurs, nous, tu sais. Dans le pharma, surtout l'alimentation, tu sais. Ceux qui veulent développer des produits et ne savent pas les tableaux nutritionnels, les marchés, comment. Si on est habitué, on travaille des jobs sur le US aussi beaucoup. Donc, on peut faire les normes US, on les connaît. Et procéder d'impression, on est spécialisé là-dedans aussi.
C'est très, très hot. Puis, en tout cas, pour ceux qui écoutent, probablement que vous avez déjà leurs œuvres d'art un peu partout dans votre maison parce que c'est assez malade le nombre de trucs que j'ai. J'ai comme, ah ouais, c'est autre ça, tu sais. J'ai vu, vous avez un portfolio de la mort, là. C'est vraiment, vraiment très hot.
C'est bien gentil, mais c'est mon équipe.
All right.
Je redonne le crédit à eux.
Yes. Hey, Louis Desilets.
Merci.
Merci d'avoir été là. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Choisissez vos pensées, choisissez votre vie. Ciao.